Moi, je suis heureux d'être parmi vous ce matin et c'est une grâce de Dieu de se retrouver toujours dimanche pour adorer, célébrer, exalter notre roi, pour lui rendre tout l'honneur que nous lui devons, toute la gloire qu'il a à recevoir de chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais toujours continuer dans cette lancée donc du juste. Et le titre de mon message ce matin, c'est juste, parle à ta montagne. Le Saint-Esprit est terrible, hein? Mais j'aime bien quand il me dévance comme ça, avec les dons spirituels. Il me trace le chemin et puis moi, j'ai plus qu'à marcher, hein, tout doucement. Hein? Dans le don spirituel qui a été interprété tout à l'heure, il était question de proclame, parle à ta situation. Et ce matin, juste, parle à ta montagne. À un moment ou à un autre de notre vie, peut-être que cela n'était pas encore arrivé, je ne suis pas en train de te prophétiser quelque chose de méchant, mais on finit souvent par être confronté à des montagnes. Il y a des montagnes qu'on peut facilement, justement, affronter, mais il y a certaines qui sont plus compliquées. Et il est important d'examiner la parole de Dieu pour voir ce que Dieu nous dit lorsque nous sommes face à nos montagnes. Le problème, ce n'est pas comment nous devons réagir nous-mêmes. C'est ce que Dieu nous dit d'abord. La vie chrétienne, c'est cela. Vous savez, moi, je suis surpris. Plus je vieillis, plus je me rends compte que nous, les êtres humains, en particulier les enfants de Dieu, nous avons un problème. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés par grâce et ensuite, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et quand ça ne marche pas, nous revenons à Dieu pour lui faire le reproche que les choses ne marchent pas. Et là, Dieu se dit, mais est-ce que tu as fait les choses comme je t'ai demandé de faire? Est-ce que tu as fait les choses en tenant compte de ma parole? Ou est-ce que tu as fait les choses en tenant compte de ta tradition? Ou en tenant compte, comme nous l'avons entendu ce matin, les uns et les autres autour de toi qui vont te dire, ah ben c'est comme ci, ah ben c'est comme ça. Eh oui, ben vous savez, moi ça me fait toujours sourire parce que je me dis, est-ce que nous avons compris ce que c'est la vie chrétienne? Si nous n'avons pas compris cela, nous aurons des problèmes à tous les niveaux. Et c'est nous-mêmes qui allons en souffrir. Non pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais simplement parce que nous n'avons pas compris l'essentiel de la vie chrétienne. Oh, je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous des idiots. Ce n'est pas ça. C'est juste pour dire que nous devons marcher comme Dieu nous demande de marcher. Parce que la Bible dit que nous devons désormais marcher en nouveauté de vie. Selon l'homme nouveau, créé par Christ, créé par Dieu en Christ. Il y a un homme nouveau. On parle de nouvelle naissance. On parle de nouvelle création, de nouvelle créature. C'est selon cet homme-là que nous devons marcher. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie morale. Laissez tomber ça. Non. Ce n'est pas une vie morale. C'est bon, on a la constitution en France, on a la loi, ça nous suffit. Laissez tomber. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie morale. Frères et sœurs, je vais vous faire une confidence ce matin. Il y a quelques mois, Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, arrête-toi. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Il me dit, vous avez un problème. Vous les prédicateurs, je dis parle. Il me fait, vous passez votre temps à faire croire aux gens que moi, mon royaume, c'est le royaume du bien et Satan, c'est le royaume du mal. Il dit, qui vous a dit ça? Pourtant, c'est ce que nous croyons. Il m'a dit, retourne dans Jean. Jean 3. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit dans Jean 3? Qu'est-ce que moi-même j'ai dit à Nicodème? J'ai dit, tu as dit, car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit ait quoi? Ah, est-ce qu'il a dit le bien? Qu'il ait quoi là? Dieu m'a dit, il faut que vous sachiez. Et ça nous trompe beaucoup. Il m'a dit, le royaume de Satan, c'est le royaume du bien et du mal. Le royaume de Satan, c'est le royaume du bien et du mal. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie. Et il m'a dit, la vie est plus que le bien et le mal. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons combattre la vie chrétienne comme étant une vie morale où il faut essayer de ne pas faire ça pour être bien vu, pour que Dieu puisse nous coter. Non! La vie est plus que le bien et le mal. Souvenez-vous, rappelez-vous que dans le jardin, lorsque, quel est l'arbre que Dieu avait défendu de manger, le fruit de l'arbre? C'était l'arbre de quoi? La connaissance du bien et du mal. Mais écoutez, ça va vous étonner ce matin, Satan sait faire le bien, il sait aussi faire le mal. Si vous vous basez sur le fait que Dieu c'est le bien, Satan c'est le mal, nous avons tout faux et nous allons droit dans le mur. Dieu c'est la vie. Dieu est venu apporter la vie. La vie est plus que le bien et le mal. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Alléluia. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de vie. Jésus-Christ, l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la nature de Satan. L'arbre de vie, c'est la nature de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous apporter la vie, pas le bien et le mal. Si c'était le bien et le mal, regardez, vous faites toujours le mal, oui ou non? Mais alors, donc nous irons tous en enfer. C'est ça l'évangile. Nous irons tous en enfer, puisque nous faisons encore le mal. Moi j'en fais, vous n'en faites plus. Alléluia. Moi j'en fais encore. Il m'arrive. Il m'arrive de blesser les gens. Oui, il m'arrive encore. Ça dit que j'irai nulle part, mais non. Dieu est venu nous apporter la vie. Et c'est dans la vie de Dieu, manifestée par Christ, qu'il y a toutes choses. Ce n'est pas dans le bien. C'est pour ça que la religion va toujours échouer. Parce que la religion veut dire, c'est la morale. Il ne faut pas faire ça. Mais vous savez, les religieux ont un secret. Le secret des religieux, c'est qu'ils savent qu'eux-mêmes sont hypocrites. Ils le savent. Personne n'a besoin de leur dire. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont hypocrites. Mais l'enfant de Dieu est conscient qu'il est faible, alléluia. Mais il sait que dans sa faiblesse, il y a quelqu'un qui habite en lui qui est fort. Et c'est de la force de celui qui habite en lui que cet enfant de Dieu vit. Il ne vit pas de ses efforts. Oh! C'est ça, frères et sœurs. Sortons de cela. C'était une petite parenthèse, ce n'est pas mon message ce matin. Juste pour dire, frères et sœurs, faisons attention. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, selon Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous morfondre, nous allons souffrir, nous allons demander pardon à Dieu pendant des semaines, pendant des mois, alors que Dieu dit seulement, si tu as fauté, viens de tout ton cœur. Il ne dit pas, viens avec ta tête, parce que la tête est trompeuse, elle ment tout le temps. Et il dit, viens avec ton cœur, parce que le cœur est sincère. Viens, demande pardon de tout ton cœur. Et moi, je suis fidèle et juste à quoi? Il est fidèle à quoi? À l'alliance qu'il a faite avec nous en Christ. C'est tout. Il n'est pas fidèle parce que nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs que qui? Personne. Moi, je suis conscient quand je suis au travail, je ne suis pas meilleur que mes collègues. Mais je suis conscient d'une chose, c'est que j'ai ce que eux n'ont pas. C'est ça la différence. J'ai Christ, ils n'ont pas Christ. C'est ça la seule différence. Juste parle à ta parole. Nous allons lire un premier texte dans l'évangile de Jean, juste pour situer, pour voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voici ce que l'apôtre Jean déclare. Il dit, au commencement, il faut que nous sachions une chose, c'est qu'au commencement de toute chose était la parole. Alors là, quand on nous dit au commencement de toute chose était la parole, nous en tant qu'être humain, on se dit, ah, la parole c'est le son. Parce que vous savez, ce que je suis en train de vous dire maintenant vient de quelque part. Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce que je vous dis vient de quelque part. Donc même sans parler, la parole est où? Elle est en moi. La parole, ce n'est pas le son. Mais sinon, les muets, les sourds muets, quand il faut le langage de signes, c'est la parole, oui ou non? La parole, ce n'est pas le son. On vous dit, au commencement était la parole. Et c'est pour cette raison que dans Genèse, on vous dit, ensuite Dieu va parler. Mais la parole, donc il dit, Dieu était la parole. La parole, c'est la nature de Dieu. Et Dieu donne une dimension vocale justement à la parole. Et quand il donne une dimension vocale à la parole, les choses qui n'existent pas viennent à l'existence. Donc au commencement était la parole. La Bible nous dit que tout ce qui a été fait par la parole. Alors si nous sommes conscients, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, que tout ce que Dieu a fait Il l'a fait en tant que parole et par la parole. Si nous sommes conscients de cela, est-ce que nous allons prendre, vous et moi, la parole de Dieu au sérieux? C'est ça la question que Dieu nous pose. Ce n'est pas une question de dire je suis chrétien. Même si tu as chrétien, chrétien plus 50, plus 60, ce n'est pas ça qui compte. Je ne méprise pas les années de conversion de quelqu'un ce matin. Ce qui compte, moi je veux voir ton fruit. Moi je veux voir ton fruit, ce que tu portes comme fruit. C'est ça qui m'intéresse. Eh oui, je veux voir ton fruit. Quand je vois le fruit que tu portes, j'ai du respect. Je dis yes, voici quelqu'un. Qui est une branche qui est attachée au cep Christ et qui porte le fruit de Jésus. Mais alors, tu es chrétien, tu passes tout le temps à mépriser les gens autour de toi, tu passes tout le temps, alors il n'y a pas de fruit. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas les sacrements, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie. Au commencement était la parole, c'est la base de toute chose. Et la Bible nous dit que cette parole-là était la lumière. C'est quand même bizarre. Est-ce que le son-là peut être la lumière? La Bible vous dit que Dieu est lumière, oui ou non? C'est ça. Parce que lui est lumière, il devient le père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est important. Ça dit, il y a certains principes avec Dieu, si nous ne sommes pas au clair avec ça. Quand on nous dit la parole de Dieu, on est là, on croit que c'est ce qu'on nous raconte. Non, la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis ce matin. Non. C'est pour cette raison que quand Dieu dit dans Jacques qu'il a planté la parole dans nos cœurs, ah ben, si cette parole-là a planté, qu'est-ce qui est venu habiter en nous? Le Saint-Esprit, oui ou non? La parole, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir, frères et sœurs, en ce qui concerne la parole. C'est que la parole, c'est la personne de Dieu. C'est pour cette raison que quand Christ est venu prendre la chair de Marie, la Bible a déclaré que c'est la parole de Dieu qui s'est faite. C'est pour ça. La parole, elle est esprit. Elle est descendue, elle a pris une enveloppe, la chair de Marie, elle est devenue Jésus au milieu des êtres humains. La parole faite chair au milieu de nous. Emmanuel. Quand vous disiez Dieu avec vous là, Dieu avec vous, ce n'était pas la tête de Jésus, je suis désolé. Non, je préfère vous le dire. Dieu avec vous, ce n'était pas les sapatos de Jésus, ce n'était pas ça. Dieu avec vous, c'est pour ça que quand un disciple a dit à Jésus, mais montre-nous le Père, Jésus va lui dire, mais depuis que tu es avec moi, tu me demandes encore, montre-nous le Père. Tu ne sais pas que le Père est où? En moi. Le Père est en moi, ce que tu vois là, c'est une enveloppe. La parole est en moi. Poursuivons, toujours dans Jean. On va voir, au commencement Dieu était la parole. Et voici ce que la parole a fait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole-là, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est cela. Donc la parole, là, elle fait quoi? C'est la parole, c'est l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour nous faire naître de nouveau. Donc, c'est cela. La Bible nous dit que elle donne le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. Donc cette parole-là, qui est Dieu et parole, Dieu donne un visage à sa parole, il envoie son fils, la parole faite chair au milieu des hommes. Cette parole-là maintenant, elle est manifestée physiquement au milieu de gens pour pouvoir ramener les hommes et les femmes à Dieu. Poursuivons notre lecture. Cet homme qui a accepté Christ là, donc cet homme qui est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était où? En Christ. Il réconciliait lui-même qui? Il réconciliait le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu nous utilisait, exhortait par nous, hein, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre boulot, c'est notre job de réconcilier les gens qui ne connaissent pas Dieu avec Dieu. Parce que en nous, il y a la parole de la réconciliation. Donc cet homme qui est né de nouveau, à qui la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la Bible dit qu'il est une nouvelle création. Et cette nouvelle création, la Bible dit qu'elle joue le rôle, ou du moins la fonction, d'ambassadeur. Et peut-être les gens qui n'aiment pas ce mot. Si vous ne connaissez pas comment se passent les choses au niveau diplomatique, l'ambassadeur ne parle jamais de lui-même. Jamais. Il ne parle jamais de lui-même. Lorsqu'un ambassadeur est reçu dans le pays où il est accueilli, lorsqu'il est reçu par, justement, les responsables de ce pays, il parle toujours au nom de son pays. Il dit « Voici la position de mon pays ». Il ne dit jamais « voici ma position », jamais. Un ambassadeur parle toujours pour son pays. Et donc c'est pour cette raison que la Bible nous dit, maintenant que nous sommes nés de nouveau, nouvelle création, notre boulot c'est quoi? C'est de faire la promotion de quoi? Du royaume. C'est tout. Notre boulot c'est de faire la promotion du royaume. Nous venons ici comme nous y sommes ce dimanche pour nous équiper, pour nous former, pour être encouragés. Et quand on va, c'est au dehors qu'on fait l'œuvre du ministère. Ce n'est pas ici. Nous, on va faire quoi ici? On va faire quelle œuvre du ministère, là? Dites-moi. C'est au dehors. C'est avec les gens qui ne connaissent pas Dieu que nous fuyons, là. Dieu nous dit, c'est nous qui devons les réconcilier avec lui, oui ou non? C'est ce qui est marqué. Nous sommes ambassadeurs. Dieu nous a envoyés. C'est pour cette raison que Jésus dira dans Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de... Je vous ai envoyés, vous êtes en mission. Vous êtes des ambassadeurs. Vous avez une lettre de créance. Vous avez l'immunité diplomatique céleste. Ne craignez pas. Oh, alléluia. Alléluia. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons lutter avec nous-mêmes. Nous allons lutter avec les choses de l'extérieur. Nous sommes ambassadeurs. En 2003, lorsqu'un premier ministre de la France est arrivé aux Nations Unies, un ministre des Affaires étrangères, il savait qu'il allait aux Nations Unies, non pas pour parler pour lui-même, mais il allait parler au nom de la France. Et lorsqu'il a parlé, il a dit « La France s'oppose et ne prendra pas parti à la guerre qui devait être déclenchée en 2003 ». Il n'a pas dit « Non, je viens vous dire que je ne suis pas d'accord ». Non, il dit « La France, il engage ». Donc Dieu te dit quoi? Que quand tu ouvres ta bouche, tu engages quoi? Tout le royaume. Donc ta bouche, attention. Eh oui, un ambassadeur ne fait pas n'importe quoi. Si tu vas raconter n'importe quoi dans le pays où tu es accueilli, on va te rapatrier, oui ou non. Mais c'est ça que... Non, mais je préfère prendre des exemples que nous comprenons, des choses naturelles dans le fonctionnement humain. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous êtes ambassadeur pour Christ, vous jouez ses fonctions. Eh oui! Mais est-ce que nous sommes des ambassadeurs envoyés n'importe comment? Non, Jésus nous a dit, du moins Luc nous répète les paroles de Jésus dans le livre des Actes. Nous connaissons tous ce verset, ce passage, Actes 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans quel but? Vous serez mais d'abord à Jérusalem, ensuite à côté en Judée, ensuite plus loin en Samarie et jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Mais c'est ça un ambassadeur? Eh bien oui, il dit, je vous donne mon esprit pour que vous soyez mes témoins, pour que vous soyez mes ambassadeurs. Je ne vous donne pas mon esprit pour que vous vous enquiquinez les uns les autres. Non, mon esprit c'est pour que vous soyez ambassadeurs, c'est pour faire la promotion du royaume. L'église est une agence de promotion du royaume. L'église est sur terre pour faire la promotion du roi, la promotion du royaume, pour parler de Jésus, ses bienfaits, ce qu'il a fait, pour que ceux et celles qui ne le connaissent pas puissent justement rejoindre ce beau royaume, cette belle famille de Dieu. Jésus va nous dire également, il va nous dire, mais en tant qu'ambassadeur, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous ne devez pas vous séparer de moi. Vous devez être comme des sarments qui sont attachés au cèpe. Et c'est alors que vous allez pouvoir jouer votre rôle d'ambassadeur avec efficacité. Vous allez porter beaucoup de fruits. Et en portant beaucoup de fruits, mon Père va vous mettre encore plus à part. Quand il dit à part là, ce n'est pas pour dire n'allez pas voir les gens du monde. Non, puisque c'est eux que nous allons sauver. Il dit quand il dit à part, ça dit qu'il te met à part pour te charger à bloc. Et quand tu es chargé à bloc, tu vas dans le monde, tu dis Jésus est vivant. C'est cela. Il ne te dit pas, il faut que tu te caches. Pour dire, oh, le monde est venu à l'église. Mais si le monde ne vient pas ici, il va aller où? Dites-moi où le monde va aller. Eh bien oui, c'est ici que Dieu envoie. Dieu a mis en place, Jésus a mis en place son église. Pourquoi? Et le monde. Il dit, j'ai tant aimé. Ah, il n'a pas dit, j'ai tant aimé l'église. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Et j'ai envoyé mon fils se sacrifier pour ce monde-là. Même si le monde ne m'aime pas, même si le monde me rejette. Mais c'est pour ce monde-là que j'ai envoyé mon fils. Alors, si nous sommes attachés à Christ, lui le cèpe, nous les sarments, eh bien, nous, cette parole d'Amos doit nous revenir à l'esprit, où la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être concertées ou être d'accord au préalable. Toi, tu veux marcher avec Dieu, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Dieu dit, mais tu vas souffrir, parce que moi, Dieu ne change pas. C'est ça qui est extraordinaire. Il te dit que lui ne change pas. Il dit, c'est toi qui changes, en fonction du temps. Selon qu'il fait beau, tu es de bonne humeur. S'il fait mauvais, s'il pleut un tout petit peu, tu es de mauvaise humeur. Il suffit que tu aies une nouvelle chaussure que tu as achetée récemment, parce que tu ne savais pas qu'il allait pleuvoir, il pleut, elle se mouille un peu, et ça y est, l'humeur est catastrophique. Dieu dit, moi je ne change pas en fonction de l'humeur. Il dit, même lorsque les rois de la terre sont en panique, même lorsqu'il y a la crise économique, même lorsqu'il y a la crise militaire, il dit, moi je suis assis sur mon trône, et je ris, psaume 2. Il dit, même lorsque les rois de ce monde, il dit, moi je suis assis sur le trône, je suis immuable, je ne change pas. Je ne varie point. Il n'y a aucune circonstance qui peut m'amener à changer. Dieu ne peut pas changer. Vous savez, moi, quand je prie Dieu, vous savez ce que je lui dis? Je dis, toi, tu ne peux même pas changer. Et je rigole. Je dis, tu ne peux pas changer. Je dis, mon assurance, c'est que toi, tu ne peux pas changer. Moi, je change, mais toi, tu ne peux pas changer. Et je dis, parce que tu ne peux pas changer, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. C'est comme ça que je parle à Dieu. Je dis, tu ne peux pas, tu peux pas me tromper. Je dis à Dieu, tu ne peux pas me tromper. C'est impossible. En toi, il n'y a point de méchanceté. Comment tu peux tromper quelqu'un? Ce n'est pas possible. Donc nous devons être concertés avec Dieu. Et regardons le premier point maintenant. La portée de nos paroles. Le titre de mon message, c'est « Juste, parle à ta montagne ». Mais nous sommes en train de décliner petit à petit pour arriver à cela. La portée de nos paroles. Lisons un premier texte ensemble. Voici ce que le livre des Proverbes nous dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Regardez ce que la Bible nous dit. Là, la Bible nous dit quoi? Que nos propres paroles ont un impact sur notre propre vie. D'abord. Et oui, nos propres paroles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a encore 20 ans en arrière, la médecine était convaincue que toutes les maladies étaient liées aux problèmes physiologiques du corps. La médecine était convaincue de ça. La médecine était convaincue que quand on est malade, c'est parce que le corps va mal. Et jusqu'à ce qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, on est arrivé à ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Là où on a les dépressions, on a l'anxiété, on se rend compte que l'anxiété, la dépression, toutes ces choses, il n'y a aucun organe qui souffre, mais à cause justement de cette anxiété, le corps peut en souffrir. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que, par exemple, des personnes qui sont stressées en permanence vont développer des cancers d'un certain type, du tube digestif, par exemple. Mais vous allez me dire, mais quel est le lien qu'il y a entre le stress et l'estomac? Eh bien oui, il y a un lien. Parce que le stress, c'est ton âme. Ton âme. Donc quand la Bible nous dit ça, la Bible nous dit que le fruit de nos lèvres, notre bouche, c'est elle qui rassasie notre corps. Ça dit que nos paroles ont un impact même sur notre propre corps. Nos paroles peuvent nous rendre malades. Je vais vous prendre un exemple. Un jour dans un pays africain, il y a eu une épidémie de choléra. Il y a eu une épidémie de choléra et puis s'est retrouvé dans un hôpital, un lieutenant de l'armée qui était pris en charge, qui avait été aussi frappé par cette épidémie, et un mécanicien, on va dire, voilà, mécanicien de voiture. Et ils étaient là, dans la même chambre, tous les deux. Et puis, le lieutenant de l'armée, qui avait l'habitude des combats et tout ça, il était pessimiste. Il n'arrêtait pas de dire, mais c'est pas la peine, on va mourir ici. Et puis c'était le mécanicien qui lui disait, mais arrêtez de dire qu'on va mourir, on va s'en sortir, les médecins vont nous prendre en charge, ils vont nous donner les meilleurs traitements. Il dit, mais non, on va mourir, le choléra, ça va nous tuer, et ainsi de suite. Mais je peux vous dire qu'à la fin, il en est mort et le mécanicien s'en est sorti. Il y a une autre expérience qui a été faite avec des roses. En Asie, on a pris des roses, on a planté dans le même jardin, on a fait deux colonnes de roses. On les a plantées dans le même jardin. Et on a dit à deux personnes, la première, tu viens, tu t'adresses avec beaucoup de douceur et d'amour à la première catégorie des roses. Et le deuxième, tu viens dire des méchancetés aux roses. Au bout de deux semaines, les roses qui recevaient des paroles méchantes ont fané. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que si Dieu nous dit de faire attention à ce que nous disons nous-mêmes, c'est parce que Dieu a envie juste de nous dire les choses? Non. Parce qu'il sait jusqu'où notre propre parole peut nous conduire. Notre propre parole a un impact sur notre corps. Notre propre parole a un impact sur notre âme. Selon ce que nous disons, nous allons être soit motivés, soit découragés, oui ou non. On n'a pas besoin qu'un spécialiste vienne nous dire ça, nous le vivons, nous tous, nous-mêmes. Selon ce que nous disons, nous allons être soit encouragés, soit découragés. Donc, nos propres paroles ont un impact sur notre propre vie. Lisons un autre texte dans Jacques. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ah! C'est cela! Il dit la chose la plus dure à dompter, c'est ça. Frères et sœurs, ce n'est aucune accusation ou aucun mépris. Nous sommes dans un pays où chacun aime donner son opinion pour tout. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le royaume divin est une théocratie. Les sujets se mettent au pas de ce que dit le roi. C'est comme ça que ça marche. La démocratie, c'est le peuple. La théocratie, c'est Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on marche avec Dieu, on doit avoir une mentalité de quelqu'un qui marche dans un royaume théocratique. La Bible nous dit de la même source, il ne peut pas sortir de l'eau amère. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que dans la mer, dans l'océan, vous pouvez trouver l'eau douce en même temps? Non, soit l'eau elle est douce, soit elle est salée. On est d'accord? De la même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Ce n'est pas possible. Il dit, regardez tout ce que Jacques nous dit. Il dit, par la même langue, c'est-à-dire par nos propres paroles, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par la même langue, nous disons de bonnes choses aux gens et nous maudissons les gens. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus nous a dit, si vous n'avez pas de bonnes choses, c'est-à-dire vous n'avez pas de bénédictions ou de bonnes paroles à dire aux gens, il vaut mieux là. Non, mais c'est vrai, il vaut mieux. Il dit, si vous l'ouvrez, que ce soit pour dire des paroles de bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit, il faut tourner la langue cette fois, parce que nos pensées ne sont pas toujours en harmonie avec celles de Dieu. Donc, ce qu'on est, on peut sortir à un moment, ça peut être quelque chose qui peut nous faire même du mal à nous-mêmes, mais qui peut faire du mal aussi aux autres. Nous avons vu que notre propre parole a un impact sur nous-mêmes, mais elle a également un impact sur les autres, celles et ceux qui nous entourent. Nous blessons par notre parole. Et moi, j'ai été frappé la semaine dernière. Il y a une collègue qui partage le bureau avec moi. Elle me fait, mais Loïc, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je me suis dit, tiens, elle va me dire qu'elle est enceinte à nouveau. Et puis c'est moi qui viens me taper tout le boulot, c'est ça, vas-y, dis-moi, que se passe-t-il? Elle fait, mais non, ben, tu as vu, depuis un moment, je suis un peu... J'ai dit, ouais, j'ai remarqué, mais bon, tu sais, ben, y a des moments où parfois on est un peu en baisse de régime. Que t'arrive-t-il? Ah ben non, je me sépare de mon mari. Je dis, ah bon? Je lui ai posé une question. Je dis, est-ce que tu aimes encore Jérôme? Je ne dis pas vos prénoms parce que sinon vous pouvez faire des liens. Est-ce que tu aimes encore Jérôme? Elle me fait, je l'aime plus. Je dis, mais pourquoi t'en es arrivé là? Vous vous connaissez depuis la fac, ça fait plus de 10 ans. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu sais, moi je suis croyant, moi je suis pour le mariage. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis elle me dit, il a les défauts, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes arrivés à un point où ses paroles me blessent tellement que je ne peux plus rester avec lui. Les paroles, la spic, le venin. Elle a dit, nous sommes arrivés à un point. Ses paroles sont tellement blessantes. Toutes les réflexions qu'il me fait. Il dit, je peux supporter sa jalousie maladive. Je peux supporter tous ses défauts. Mais ses paroles blessent tellement. Regardez ce qu'une femme peut dire. Les paroles. À cause des paroles de son mari, elle a dit, j'en peux plus. Je ne peux plus rester là. Je ne me sens plus heureuse. Je ne suis plus bien. J'ai beau lui dire, mais tu es sûr que c'est définitif. Eh bien oui, mais lui, je dis, j'ai même pris déjà une maison. Oh, je ne suis pas un rabibochard, mais bon. J'aime pas que les gens autour de moi souffrent, même qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens et pas chrétiennes. Peut-être qu'elles ne croient même pas. Mais vous voyez, frères et sœurs, nos paroles, ce sont des paroles qui ont mené jusqu'à divorcer. Ils vont se séparer, là, ils vont entamer la procédure de divorce. À cause des paroles. Parce que nos paroles ont un impact. Maintenant, regardons. Nous avons vu que nos paroles ont un impact sur notre propre vie. Elles ont un impact sur la vie de ceux et celles qui nous entourent. Regardons maintenant l'impact qu'il y a de nos paroles sur Dieu lui-même. Lisons un texte dans 1 Corinthiens. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dans le texte qui va suivre, nous allons voir quels sont les désirs qu'ils ont eu, pourquoi ils sont morts dans le désert. Le texte qui suit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, non, on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Regardez cela. Dieu lui-même, il va avec Moïse délivrer son peuple en Égypte. Lui-même, il descend, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Et Dieu va descendre en Égypte avec Moïse. Il va libérer ses peuples avec des miracles et des prodiges. Et il dit, je vous amène dans le pays que j'ai promis à Abraham. Et la promesse que j'ai renouvelée à Isaac, celle que j'ai renouvelée une fois encore à Jacob, je vais l'accomplir maintenant. Au bout de 430 ans, justement, d'esclavage. Et là, ce peuple va être pris en charge par Dieu dans le désert, mais de façon extraordinaire, de façon divine. Et que va-t-il se passer? À un moment, Moïse, Dieu va dire à Moïse, envoie les espions, explorer le pays. Et là, il va en envoyer 12. Une personne pour chaque tribu. Ils vont arriver, ils vont explorer le pays. Et ils vont revenir faire un compte rendu à Moïse. Et à toute l'assemblée, et là 10 des 12 qui étaient allés explorer le pays, ils vont complètement, oui, décourager tout le peuple de Dieu. Parce qu'ils vont dire, c'est vrai, la description que Dieu fait du pays, elle est réelle. Et regardez même, nous avons pris des grappes de raisin. C'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, nous avons vu des enfants d'Anak qui sont géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Il n'y a que 2 personnes. Josué et Caleb qui vont dire, mais si Dieu nous a fait cette promesse, il sera favorable. Acceptons. Et là, les autres 12, ils ont complètement découragé le peuple et le peuple a commencé à murmurer en disant, mais pourquoi est-ce qu'il nous a sortis d'Égypte? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? J'étais bien quand je faisais ce que je voulais dans le monde. Maintenant que je suis sauvé, je suis comme dans un carcan. Dieu dit, non, c'est pas vrai. Dès lors que tu n'obéis pas à ma parole, tu auras toujours du mal. Dès lors que tu n'es pas synchronisé avec moi, tu auras toujours du mal pour avancer. Et ce peuple va mourir. Plus de 600 000 hommes vont mourir dans le désert. Et à cause d'eux, et 40 ans, pendant 40 ans, le peuple va tourner en rond. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire justement, pourquoi ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pour que Dieu nous fasse traverser le Jourdain afin d'être massacrés par les enfants d'Anak, les fils d'Anak, c'est-à-dire les géants. Et là, Dieu va dire, j'ai écouté. Est-ce que c'était une prière qu'ils avaient faite? Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention ce matin. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons que c'est quand nous décidons de dire, ah là, je veux prier Dieu, c'est là que Dieu écoute. C'est une erreur. Dieu entend tout ce que nous disons. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il nous jugera pour toutes les paroles vaines que nous avons prononcées. Dieu entend. Ils n'ont pas prié, ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse, contre Aaron. Mais Dieu a entendu. Et Dieu a dit quoi? Il a dit, puisque le désir que vous avez, je vais exaucer votre désir, vous allez mourir dans le désert, puisque c'est ce que vous voulez. Ils sont morts dans le désert. Plus de 600 000 hommes sont morts dans le désert à cause de leurs propres paroles. Dieu a dit, il vous sera fait selon quoi? Il vous sera, voilà, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Leurs propres paroles. C'est ainsi. Frères et sœurs, lisons ensemble un autre texte dans Malachie. Voici ce que Dieu dit au peuple. Il dit, vous me fatiguez par quoi? Vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Et Dieu dit, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Frères et sœurs, je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. Quand je préparais ce message, quand je suis arrivé sur ce texte, m'est venu des paroles qui sont arrivées à mes oreilles. Depuis un certain temps, il y a notre frère David qui vient de l'Angleterre. Et il y a des choses extraordinaires que Dieu fait ici, dans l'église d'Angers. J'ai failli dire Limoges. Dans l'église d'Angers. Et moi, j'ai entendu des paroles qui sont arrivées à mes oreilles, comme quoi ce sont seulement les gens qui viennent du dehors qui sont guéris. Et nous, on est des chrétiens, on n'est pas guéris. C'est le même reproche que les gens faisaient à Dieu à l'époque. En disant, Dieu, oh, toi, tu es toujours bon avec les méchants. Et tu es méchant avec les bons. Où est ta justice? Frères et sœurs, ce n'est pas l'objet de mon message. Mais la Bible nous dit clairement comment est-ce que Dieu nous réserve à nous la guérison pour les enfants de Dieu. Mais nous avons adopté la guérison que Dieu réserve à ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Où est donc le Dieu de la justice? Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Parfois, nous avons des pensées comme ça sur Dieu. Nous croyons que Dieu est méchant, que Dieu favorise les uns et pas les autres. Frères et sœurs, non. Il y a des choses que nous devons savoir. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas Dieu, Dieu va simplement le regarder par rapport à sa foi. Puisqu'il ne connaît rien, il est mort à Dieu. Vu que Dieu est fidèle, il va exaucer la foi. Mais toi et moi, la foi, elle va être basée sur ce que Dieu dit. Et si on n'est pas en phase avec ce que Dieu dit, on va trimer, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Frères et sœurs, nos paroles ont un impact aussi sur Dieu. Dieu a laissé tout un peuple que lui-même a sauvé de l'esclavage. Il l'a laissé périr dans le désert. 600 000 hommes et poussière. Périr dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre en phase avec la parole de Dieu. Ils ont refusé. Ils ont dit, la parole de Dieu, ce n'est pas celle que nous voyons la situation qui nous arrive. Le deuxième point, c'est le juste harmonise ses pensées et ses paroles avec celles de Dieu. C'est pour ça que Dieu va nous dire dans Ésaïe, il dit, nos pensées ne sont pas ses, nos voix ne sont pas ses voix. Donc c'est à nous de nous harmoniser avec les voix. C'est pour ça que, par ailleurs, l'apôtre Paul nous dira, il faut que nous revêtions les pensées et les sentiments qui étaient en Christ. Sinon, nous aurons du mal à avancer, frères et sœurs. Et moi, ça me fait mal de voir les chrétiens souffrir, tourner en rond. Ça me fait beaucoup mal, ça me fait de la peine. Je me dis, mais Seigneur, où est-ce que... Il dit, mais si vous regardez ma parole, considérez-la et vous vivrez, vous serez heureux. La Bible dit, si vous pratiquez la parole de Dieu, vous serez comment? Heureux. Lisons un texte dans Josué. Voici ce que Dieu va dire à Josué après la mort de Moïse. Moïse, qui était le leader du peuple d'Israël, va mourir et Dieu va s'adresser à Josué en lui disant « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Oui, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu va dire, mais écoute, le succès est facile, la réussite n'est pas compliquée. Il dit à Josué, tu es là, tu te morfonds, tu es abattu, tu es découragé, parce que tu crois quoi? Que Moïse avait un secret? Il dit, si Moïse avait un, c'est qu'il savait compter sur moi et il était fidèle à ma parole. Dieu va dire à Moïse, il faut que tu, justement, que cette parole ne fasse pas quoi? Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Que maintenant je vais me balader avec la Bible comme ça? Non! Ça veut dire quoi? Ça dit que ce que ta bouche dit, il faut que ça soit quoi? En harmonie avec ce qui est écrit. Ta bouche n'a plus le droit de dire autre chose que ce qui est écrit. Sinon, tu vas t'attirer toi-même des soucis, des problèmes. C'est ce que ça veut dire. Il dit, si cette parole-là s'éloigne de ta bouche, si tu dis autre chose que la parole que j'ai donnée à Moïse, c'est ton hécatombe assuré. Il dit, médite-la. Ce n'est pas lire la parole. Méditer, c'est se poser, s'asseoir. La méditation n'a rien à voir avec la lecture. C'est deux choses différentes. La méditation, c'est que tu es assis, tu es en train de ressasser dans ton cœur, dans tes pensées, la parole de Dieu. Tu es là en communion avec le Saint-Esprit pour dire, éclaire-moi, aide-moi, afin que j'aille de l'avant, afin que je fasse ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. C'est cela, frères et sœurs. Agis fidèlement selon cette parole, c'est alors que tu auras du succès. Eh bien oui, est-ce que Dieu, pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, écoute, toi tu es un général d'armée, je vais te donner un nouveau javelot. Josué, lui, il se servait de son javelot. Ou bien Dieu aurait pu dire à Josué, écoute, j'ai de nouvelles techniques de guerre, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de prendre ses ennemis en embuscade. Dieu aurait pu lui dire ça, dit non. L'assurance que tu dois avoir, c'est de pratiquer ma parole. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus notre parole. Notre parole devient la parole. La parole de Dieu devient notre parole. On proclame la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire à Josué. C'est la parole de Dieu. Et lisons un texte dans Marc, pour voir maintenant, nous, la nouvelle création. Voici ce que Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'est pas question d'aller dire à l'Everest, je n'aime pas que tu sois là-bas, viens à Angers, pour que nous aussi on ait à faire un peu de ski. Mais malheureusement, il neige pas par ici, et donc on ne pourra pas vraiment faire de ski. Non, quand il est question de montagne, ce sont nos difficultés, comme ça a été rappelé dans le don spirituel ce matin. Quand tu es face à une difficulté, quand tu es face à un problème, tu es face à une infirmité, qu'est-ce que tu dois faire? Jésus te dit, tu as l'autorité, comme ça nous a été rappelé ce matin, de parler à ta montagne. Tu as l'autorité de dire à ta montagne. Pourquoi? Parce que regardons dans le texte qui suit. Pourquoi tu peux parler à la montagne? Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parce que tu as une autorité qui ne sert à rien, une autorité qui n'est pas exercée ne sert à rien. Non, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui tous les jours s'habille en policier, porte une arme, reste chez lui devant la télé et dit « Ah, je suis policier ». Personne ne fait ça. Non. On est policier parce qu'on va jouer un rôle de policier à l'extérieur. On exerce son autorité. Et nous, les chrétiens, nous avons du mal à exercer notre autorité. Nous ne voulons pas exercer. Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ». Les serpents et les scorpions, ce sont les montagnes que nous pouvons, auxquelles nous pouvons être confrontés. Et Jésus nous dit « Ces montagnes-là, si vous leur parlez, elles vous obéissent ». Mais pourquoi Jésus va dire ça? Est-ce que c'est parce que Jésus veut que nous soyons pris pour des hommes qui soient des fous? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est réel. Et comme nous allons le voir maintenant, dans la conclusion justement. Lorsque Jésus lui-même a été face à Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourtant vous, quand vous avez des difficultés, vous faites quoi? Vous priez. Pourquoi vous priez? Parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez une autorité. parce qu'on n'avait pas... Écoutez, je prends un exemple tout bête. Un gendarme qui est sur la voie publique et qui fait son boulot, qui vous arrête, un contrôle, hein? On vous contrôle, on vous demande les papiers. Est-ce que le gendarme, il vous dit, écoutez, monsieur, madame, je vais vous demander 2 minutes, je vais appeler mon chef pour savoir ce que je dois faire. Il ne fait pas ça. Il ne dit pas, écoutez, je vais appeler d'abord Bernard Cazeneuve pour savoir, je vais appeler mon patron pour lui dire, est-ce que cet homme-là... Non. L'autorité n'a rien à voir avec la force ou la puissance, non. Vous avez beau être comme un chauffeur de poids lourd, qui est vraiment lourd aussi. Mais le petit policier qui fait 1m50 et qui fait son poids mouche, bien évidemment, eh bien il l'arrête. Et le poids lourd, qui conduit le poids lourd, il fait quoi? Il s'arrête, oui ou non? Parce qu'il reconnaît quoi? L'autorité. Ce n'est pas par la force, il n'arrête pas le tenant, non. Parce que s'il va par la force, il sait que le chauffeur de poids lourd, il fera une bouchée. C'est ça, l'autorité n'a rien à voir avec la force. L'autorité, c'est que tu as une délégation de pouvoir. Tu as une délégation de pouvoir et tu l'exerces. Jésus face à Satan, il n'a pas prié. Il n'a pas dit à Satan, laisse tomber, je vais d'abord prier mon père. Non, il a résisté à Satan en faisant quoi? En s'harmonisant avec la parole de Dieu. Jésus s'est harmonisé, il a dit, il est écrit, il est dit. Satan s'est barré. Mais si tu commences par essayer de vouloir faire les choses par toi-même avec Satan, ou aller traîner pour, à gauche, à droite, pour dire, oh, aidez-moi, je ne comprends pas. Satan va dire, c'est ce que je veux. Comme ça, tu es déboussolé, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus ton regard, comme cela nous a été répété ce matin, tu n'as plus ton regard fixé sur Jésus. Tu as le regard maintenant fixé sur les autres et sur toi-même. Et là, tu es perdu. Parce que dès que ton regard s'arrête d'être fixé sur Jésus, tu deviens comme l'apôtre Pierre. Quand il marchait sur l'eau. Quand il a arrêté de regarder Jésus, il a fait quoi? Eh oui, la loi, la poussée d'Archimède que Jésus avait annulée, elle est redevenue. C'est comme ça. Frères et sœurs, Jésus, face à la tempête, qu'est-ce que Jésus a fait? Vous vous rappelez de cet épisode, Jésus dans la barque avec ses disciples. Et là, il y a une tempête qui s'abat, les flots, le vent. Et puis Jésus dormait. Et les disciples viennent le voir au bout d'un certain temps. Ils ont certainement essayé par eux-mêmes, par leurs propres efforts, parce que des pêcheurs de poissons, à la base, ils ont essayé, ils connaissaient le lac de Galilée. Ils ont voulu, par leurs propres efforts, essayer de ramer pour continuer, pour faire la traversée. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. Ils vont voir enfin Jésus. Et ils lui font le reproche. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne sais pas que sur la terre, quand on est dans une barque et qu'il y a les flots comme ça, il y a les vents comme ça, il faut s'inquiéter. Toi, tu es quel type d'homme, toi, Jésus? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Tu es bizarre. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons, tu dors, c'est quoi? Les êtres humains ne dorment pas quand il y a la catastrophe comme ça. Ils s'inquiètent, ils courent, ils giglent dans tous les sens. Jésus, non, Jésus va se lever. Il va faire quoi, Jésus? Il va dire, oh Père, je t'en supplie, aide-nous au secours. Il a fait quoi? Ah, il a dit, tais-toi. Et vous aujourd'hui, chrétiens, vous et moi, Jésus a demandé au vent de se taire. Il a demandé aux eaux de se taire. Et aujourd'hui, quand nous sommes chrétiens, et nous on dit, ah mais non, parler aux événements, parler à la nature, c'est une folie. Donc Jésus était fou. Jésus était fou, c'est le problème que nous avons. Jésus a parlé, il a dit au vent, tais-toi. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Parlez à vos montagnes. Il y avait la montagne, hein, justement de la tempête. Jésus n'a pas prié, il a parlé. Il a parlé à la montagne. Et vous connaissez aussi cet épisode, je finis avec ça, de Pierre et Jean, alors qu'ils étaient en train de monter vers 15h au temple à Jérusalem pour faire la prière. Et là, il y avait justement le paralytique qui était là depuis des années et qui faisait l'aumône. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carrefour ou d'autres magasins. Le lieu que les gens fréquentaient le plus à cette époque-là, mais c'était le temple, bien évidemment. À part quand ils allaient dans leur champ pour leurs travaux, mais c'était le temple où les gens venaient. Et alors là, lui, il était là pour demander... En fait, nous, la Bible dit l'aumône, voilà, c'est un terme qui est très sympa. Mais nous, on dit faire la manche. C'est ça qu'ils faisaient, ils faisaient la manche. Et là, ils vont arriver, et là, Pierre et Jean vont lui dire, regarde-nous dans les yeux, c'est bizarre. Hein? Et la Bible nous dit qu'ils s'attendaient à quoi? À ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent. Et là, Pierre va prendre la parole en disant, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et... Il a parlé à l'infirmité. Pierre n'a pas prié, il a parlé. Il a dit, je te parle, toi, infirmité. Toi, maladie, parle. Parle à ta maladie. Dis-lui que tu n'auras pas raison de ma vie. Parlez, parlez. Frères et sœurs, moi, quand j'ai une douleur quelque part, je vais devant la glace. Je dis, toi, écoute. Toi, si tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire, tant pis pour toi. Je parle à mon corps, je regarde, parce que je sais qui je suis esprit, je lui parle. Et je peux vous dire, frères et sœurs, au bout de 2 heures, la douleur c'est que le patron a parlé, elle disparaît. C'est comme ça, si vous ne parlez pas à vos montagnes vont vous dominer. Si vous ne parlez pas à vos montagnes, il y a un risque que vous ayez un éboulement de la montagne qui va vous, justement, vous recouvrir et vous allez étouffer. Vos montagnes, il faut les affronter. Et Jésus dit, les montagnes les affrontent avec quoi? En parlant. Il faut proclamer. Il faut parler ce que Dieu a fait pour toi. Pas dire n'importe quoi, mais dire des choses qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Tu dois t'harmoniser avec la parole de Dieu pour faire en sorte que quand tu ne parles pas par procuration pour terminer, comme ce fut le cas pour les fils d'un certain, on dira peut-être pasteur pour qu'on comprenne mieux, les fils de Séva, qui ont dit aux démons, au nom de Jésus, que Paul prêche, nous vous en conjurons, sortez. Les démons leur ont dit, mais nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous de quelle autorité? Ah ah, de quelle autorité? Et ils n'ont pas pu dire de quelle autorité. Ils ont dit, au nom de ce Jésus que prêche Paul. Ils ont dit, ok, maintenant venez, on va vous montrer que nous, c'est l'autorité qui compte. Alléluia. Dieu soit béni, frères et sœurs. Parlez à vos montagnes. N'ayez pas peur. Vous savez que quand vous parlez à une douleur, la douleur est capable de s'amplifier. Cela ne veut pas dire que vos paroles n'ont aucun effet. Non, ça veut dire que l'autre aussi, de l'autre côté, il tire. Et oui, l'ennemi aussi, il tire. Il veut te faire croire que ça ne marche pas. Mais si tu continues, tu parles. Tu continues, tu parles. Tu verras qu'à la fin, la douleur, tu auras raison d'elle parce que tu proclames ce que Jésus a fait pour toi. Parle à ta montagne. Ne parle pas de ta montagne. Parle à ta montagne. Ne parle pas de ta montagne. Ne va pas de lieu en lieu pour dire, oh regardez, pour se faire plaindre, ça ne marche pas. Les gens vont te plaindre, quand tu arrives chez toi, tu en pleures. Mais quand tu parles à ta montagne, tu grandis. Tu prends de la quintessence spirituelle et en ce moment-là, même dans le monde spirituel, on te respecte. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Louange à toi, Seigneur. Merci, Père. Amen.